L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission quotidienne de Transistor, ex-Radio Évasion. C'est à midi et en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, on accueille des partenaires que nous retrouvons chaque trimestre, environ, dans L'Aime. C'est l'association Elle en Cornouailles. Nous les recevons en particulier autour de la conférence que l'association organise le 15 novembre prochain, qui a pour thème les femmes et l'argent, vaste programme. Alors avec nous en plateau, il y a Sabrina Olivier, qui est présidente d'Elle en Cornouailles, et Valérie Laforgue, conseillère en gestion de patrimoine, dirigeante de Vela Patrimoine. Elle sera intervenante de la conférence. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour Véronique.
Sabrina, on va commencer avec vous, puisque c'est un peu l'émission inaugurale de la saison. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Elle en Cornouailles ?
Alors, Elle en Cornouailles, c'est une association qui a été créée en 2010, à l'origine par des femmes cadres. Donc, cette association accueillait des femmes en responsabilité, en poste, en recherche d'emploi, dans tous les secteurs d'activité. Et ces femmes venaient aussi d'entreprises de toute taille.
C'était d'abord des cadres.
Oui, voilà, c'était d'abord des cadres. Au fil des changements et de l'évolution dans le monde professionnel, comme l'augmentation des auto-entrepreneuses, une augmentation des mobilités professionnelles et des personnes qui revenaient sur Quimper, les adhérentes n'étaient plus uniquement des femmes cadres. Donc en 2022, on a redéfini la raison d'être d'Elle en Cornouailles par le fait qu'Elle en Cornouailles encourage celles qui prennent ou veulent prendre des responsabilités dans le cadre de leur parcours professionnel de salarié en tant qu'entrepreneur déjà installé ou nouvellement arrivé sur le territoire. Elle en Cornouailles est un réseau d'entraide et de solidarité qui contribue au développement économique et à l'attractivité du territoire. Nos adhérentes sont des femmes en responsabilité dans les entreprises, des salariés, des entrepreneurs en activité ou en projet, en bref, des femmes de talent.
Et elles sont combien actuellement, vos adhérentes à Elle en Cornouailles ?
Alors, on est 55 à peu près.
Et c'est pas uniquement Quimper, hein. La Cornouailles, évidemment, ça va au-delà. C'est quel territoire, en gros ?
Alors, on a du Pays Bigoudin, du côté de Douarnenez. On a aussi des femmes qui viennent de Fouesnant, Concarneau, Quimper, évidemment. On a aussi des femmes qui peuvent venir de Lorient.
Et le profil, c'est plutôt des cadres encore, enfin, historiquement, ou est-ce que vous avez de plus en plus d'entrepreneuses ?
On a de plus en plus d'entrepreneuses et de femmes porteuses de projets.
Tous les métiers sont représentés ou pas ?
Oui, c'est vraiment c'est ça qui fait la richesse de l'association. C'est des femmes qui sont dans tous les métiers.
Ou des secteurs d'activité, peut-être, oui, il y a peut-être des secteurs d'activité dominants, enfin, je ne sais pas, plus d'agroalimentaire ou...
Non, pas spécialement.
Et comment est-ce que vous travaillez ? Que fait l'association, Elle en Cornouailles ?
Alors, déjà, nous sommes toutes bénévoles, ça c'est important de le rappeler. Le conseil d'administration se réunit à peu près tous les deux mois. Et des commissions de travail sont mises en place pour l'organisation d'événements, la communication. Et dans nos événements phares, on a les jeudis d'Elle qui se passent tous les premiers jeudis de chaque mois. On organise aussi des ateliers, donc c'est une adhérente qui partage ses compétences professionnelles avec les autres. Et bien sûr, nous organisons les conférences à peu près deux fois par an.
Et vous participez aussi à des événements externes, par exemple,
oui.
Là, qu'est-ce qu'il y aura prochainement ?
Prochainement, il y aura Femmes et Numérique le 7 novembre.
Donc ça, c'est un forum organisé par la Technopole de Cornouailles, c'est ça ?
C'est ça. Cette année, il n'y aura pas de réseau représenté, mais on est invité à y participer. Le 16 et 17 novembre, nous aurons un stand au forum de Terre d'entreprise à Quimper. Et chaque année, on participe à la Quimper Rose. Donc, puisque le cancer du sein, touche principalement les femmes, nous sommes une association, un réseau de femmes, donc c'est important pour nous d'y participer.
C'est une course, hein, c'est ça,
oui,
au profit de la recherche contre le cancer du sein ?
On marche ou on court, tout à fait.
Et donc, vous organisez, vous l'avez dit, des conférences de parents. La prochaine a lieu le 15 novembre. On l'a dit, le sujet, c'est les femmes et l'argent. Il y aura deux intervenantes. L'une qui est ici en plateau, donc c'est vous, Valérie Laforgue. Il y aura aussi Catherine Bourdet, qui est également administratrice d'une autre association partenaire de la radio, c'est Entreprendre Féminin Bretagne. Elle a fondé un cabinet de coaching, de médiation, de formation, plutôt spécialisé dans les relations au travail, la prévention des souffrances professionnelles et l'épuisement professionnel. Et elle s'est penchée particulièrement sur cette question de l'argent. On va l'écouter.
J'ai créé mon cabinet de coaching et de médiation professionnelle en 2017. J'ai été accompagnée par Entreprendre au Féminin Bretagne et par Élan Créateur, une coopérative d'activité, et on avait quelques sessions sur l'argent, comment gérer son argent et sa relation à l'argent. Et il y a eu un tilt dans ma tête sur la relation à l'argent qu'on a en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne, surtout en tant que personne. Et donc, ça a été un déclic pour que je continue à me former sur cette thématique-là, l'argent dans la famille, dans le couple, sur des dimensions à la fois historiques, sociologiques, psychologiques, philosophiques, etc. Donc, depuis quelques années, je me forme, je m'informe, je me forme beaucoup sur cette notion-là, sur ce concept, sur ce tabou qu'est l'argent en France notamment. Là, je suis en train de monter une offre sur la relation à l'argent avec une conseillère en gestion de patrimoine, parce que elle s'est aperçue qu'il y avait souvent des blocages qui n'étaient pas liés à des informations qu'elle pouvait donner sur des placements ou autres, mais sur bien la relation à l'argent. Donc, on a monté une page LinkedIn qui s'appelle Monnaie Monnaie en français. Donc où là, je donne pas mal d'informations, je fais quelques petites interventions. Et je dis petites parce qu'elles sont courtes, c'est pas qu'elles n'ont pas de valeur, mais c'est qu'elles sont courtes, je précise. Et puis, on a lancé ce qu'on appelle le pack pognon, qui est en fait une offre avec deux séances de coaching centrées sur la relation à l'argent et un mini bilan. Alors, c'est pas un bilan patrimonial parce que ça correspond pas tout à fait à ce qu'on met dans un bilan patrimonial, mais une approche de bilan patrimonial par la conseillère en gestion de patrimoine.
Et qu'est-ce que vous avez pu observer, vous, dans votre pratique professionnelle, de cette relation des femmes à l'argent? Enfin, est-ce que c'est si spécifique que ça?
Il y a des spécificités, mais ce que j'ai constaté, c'est que hommes comme femmes, les freins sont différents, mais la difficulté à parler de l'argent, le manque d'éducation qu'on a en France envers l'argent. Tout ça, en fait, c'est identique homme-femme. Il n'y a pas vraiment de différence et les études le montrent aussi. Voilà, les femmes, depuis deux générations, elles ont de l'argent, elles travaillent, elles vivent seules pour certaines. Enfin bon, elles gèrent leur argent. Mais il y a des spécificités qui sont liées à l'histoire et à la culture de notre société sur les représentations des femmes et de l'argent, sur voilà, une femme est dans beaucoup d'œuvres de littéraires, de films, les femmes sont des croqueuses de diamants, il y a beaucoup de proverbes qui parlent d'une femme qui est une séductrice, une courtisane, une épouse cupide, gaspilleuse, etc. Ce sont des croqueuses de fortune. Et on aborde en France l'argent des femmes sous forme de dépense, sous l'angle de la dépense. On leur apprend pas à gagner de l'argent, on leur apprend à devenir des consommatrices et à le dépenser. Et forcément, ça a des impacts sur toute la suite de leur existence, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs.
Oui, quels sont-ils ces impacts justement sur leur vie professionnelle, enfin, surtout quand elles sont entrepreneurs?
Les impacts, c'est que quand elles sont salariées, elles ont beaucoup plus de difficultés à se valoriser sur le marché de l'emploi. Une femme en recrutement, elle va demander moins d'argent, un revenu moins important, un salaire moins important qu'un homme. Enfin, les recruteurs le constatent, et moi j'ai recruté aussi, et je constate que les femmes sont plus modestes, plus humbles dans leurs prétentions. Elles se sous-estiment en termes de valeur salariale. Pour les entrepreneurs, on a évolué un peu là ces dernières années, mais on est en dessous des 50% de créatrices d'entreprises. Les créations d'entreprises, c'est majoritairement des hommes qui créent, alors que beaucoup de femmes ont la volonté de créer leur boîte. Mais une fois que nous, on le voit avec Entreprendre au Féminin Bretagne, quand on accompagne ces femmes-là, elles ont des projets de plus petite envergure. Souvent, ce sont des femmes qui vivent en couple. À 85% de ces femmes, elles vivent en couple. Donc, elles dépendent des revenus de leur conjoint, qui impacte le fait que l'entreprise qu'elles vont créer, si ça génère pas beaucoup de revenus, c'est pas grave, parce qu'il y a leur conjoint. Voilà, rien, c'est quelque chose sur lequel nous, on agit beaucoup, parce qu'il faut faire extrêmement attention. Et puis, voilà, c'est pas besoin de beaucoup d'argent parce que mon mari travaille. C'est qu'est-ce que je mets sur le marché, qu'est-ce que je vends et quelle valeur ça a. C'est pas, voilà. Donc, le fait que ce soit un second revenu, on minimise, la femme va minimiser sa valeur, la valeur de ses actions, de ses prestations, de ses produits. Elle a de la difficulté à fixer son prix. Elles ont du mal à faire un modèle économique qui tient la route et qui permette de se rémunérer. Quand c'est des femmes qui doivent emprunter, elles vont emprunter moins. Alors, elles empruntent moins, puis de toute façon, on va leur prêter moins aussi. Donc, ça vient rencontrer ça aussi. Mais il y a 45% des femmes qui créent leur activité professionnelle sans aucune mise de départ. Elles vont même pas aller chercher de l'argent dehors, auprès des banques. Elles ont beaucoup de modestie dans leur projet professionnel d'entrepreneur, même si elles sont très motivées. Et puis, il y a des freins qui sont liés à la famille. Voilà, c'est encore très ancré culturellement. La femme doit s'occuper de ses enfants, c'est la femme qui prend un congé maternité. Alors, physiologiquement, c'est nécessaire, mais pourquoi c'est la femme qui prend un congé parental plus qu'un homme, etc., etc. Donc, quand on travaille vraiment sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de freins qui sont des freins sociaux, mais aussi des freins qui sont incorporés, incarnés, je ne sais pas comment dire, qui sont internes à la personne, à la femme. Elle pense qu'elle, elle ne peut pas s'autoriser à faire ça. C'est d'abord la priorité de ses enfants, par exemple, ou c'est la priorité de la carrière de son mari, etc. etc. Et ça, c'est des freins qu'on porte chacun, chacune, et qui sont les plus difficiles à lever puisqu'ils sont incorporés, en fait.
Donc, dans votre module Pack Pognon, comment est-ce que vous abordez la question ? Enfin, vous proposez quoi ? Des jeux de rôle, concrètement ? Comment ?
Alors, pour l'instant, je suis partie sur du coaching individuel. Je continue à faire beaucoup d'ateliers sur l'argent, notamment auprès des entrepreneurs, où là, on fait du collectif. Pour l'instant, le Pack Pognon, c'est de l'individuel. Et l'objectif, c'est d'identifier. On parle jamais d'argent. L'argent, c'est très tabou en France. On parle même pas d'argent dans son couple, dans sa famille. L'idée, là, c'est de se poser et de se dire, bon, c'est quoi ma relation à l'argent? Donc, moi, je vais faire des petits tests, des quiz, etc., ou des mises en situation parfois, ou de retravailler. Ça, c'est le coaching aussi. Je retravaille des situations avec les personnes. L'objectif, c'est d'aider les personnes à identifier leur relation à l'argent. Où sont les points de blocage? Où sont les leviers? Comment je me positionne par rapport à l'argent? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est de la sécurité? Quelle valeur je mets sur la notion d'argent? L'objectif, toujours dans mes interventions, c'est de faire prendre conscience que l'argent, c'est un moyen et c'est rien d'autre. C'est rien d'autre, sauf que c'est aussi un écran sur lequel on projette des tas de croyances, des tas de représentations qui nous appartiennent, qui appartiennent à notre famille, qu'on trimballe comme ça, parfois, de génération en génération. Ça parle de beaucoup, beaucoup de choses, mais finalement, on hérite de tout ça, on porte tout ça, mais finalement, ça vient polluer notre relation réelle à l'argent. Et le message essentiel, c'est il faut parler d'argent. Ça ne choque personne dans certains contextes. Ça peut être choquant à des soirées, des événements réseaux, mais on doit parler d'argent dans son couple, dans sa famille. On doit parler d'argent avec ses clients. On doit parler d'argent avec son employeur. Et c'est parce qu'on parle de l'argent et qu'on est dans une relation tranquille, sereine avec l'argent, que les choses peuvent évoluer aussi, et pour soi, et socialement aussi, certainement. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler cette relation à l'argent et de voir là où, forcément, les gens qui viennent, c'est que ça coïncide. L'idée, c'est de prendre conscience que derrière l'argent, quand je dis toujours la même chose, la relation à l'argent, elle parle de sa relation au monde, aux autres, à sa famille, etc., etc. Et ça parle de soi-même, de ses valeurs, de ses peurs, de ses émotions.
Catherine Bourdet, qui est donc coach, médiatrice, formatrice en relation au travail, qui sera l'une des intervenantes de cette conférence sur les femmes et l'argent proposée par Elle Encore Noaille à Quimper le 15 novembre. Et l'autre intervenante est avec nous, Valérie Laforgue. Donc vous, l'argent, c'est vraiment votre métier puisque vous êtes conseillère en gestion du patrimoine. Et alors, qu'est-ce que vous observez sur votre terrain en matière de relations entre les femmes et l'argent ?
Alors c'est vrai que mon métier dans le conseil patrimonial m'amène forcément, on va dire, sur le sujet principal, hein, l'argent. Alors l'argent dans le patrimoine immobilier ou financier, la relation en fait de l'argent entre hommes et femmes hein, aussi, mais avec l'homme et avec la femme. Et on s'aperçoit que finalement cet argent-là, cette distance, ce tabou, etc., ben, il entoure tout le monde. Hein. Les hommes et les femmes, ah oui. Mais de manière différente.
Ah.
De et manière différente.
En général, vos clients, enfin les personnes qui viennent vous voir quand c'est pas vous qui démarchez, c'est plutôt les hommes ou plutôt les femmes ?
On va dire que globalement, c'est plutôt l'homme qui se fait porte-parole.
Déjà,
pour lui-même quand il est tout seul, bien sûr, mais aussi quand il est en couple. Après, globalement, moi, au fil de mes rencontres, hein, c'est ce que je me notais, c'est qu'il y a un vrai manque en fait de connaissances. La connaissance, on le sait, hein, ça rend libre. Ça rend libre.
De et culture, puis... quoi, en fait.
Exactement. Ouais. Donc, un manque d'éducation, de connaissances de base sur l'argent, mais parce qu'il y a des clichés, il y a des croyances, il y a aussi mon voisin me dit que.
Ou les réseaux sociaux.
Et donc, je veux faire comme mon voisin, mais mon voisin, c'est pas moi. Donc, chaque personne est unique. Hein. Je leur dis, mais parlez en fait du côté unique de votre personne. Et donc, vous n'allez pas forcément choisir la même chose que votre voisin, votre sœur, vos frères ou vos parents, parce que vous n'avez pas la même situation familiale, pas la même situation financière, pas la même situation fiscale, etc. Et pas forcément non plus les mêmes héritages qui vont vous arriver. Donc, c'est vrai que moi, je dis, hein, homme comme femme, on est sur le même bateau, en fait, sur ce sujet-là, particulièrement en France. C'est vrai que moi, je me suis amusée, hein, c'est ce que je disais à Sabrina aussi, la présidente d'Elle en Cornouaille, à associer des mots, en fait, avec l'argent. J'y mets l'argent tabou, j'y mets l'argent jouissance. Il y a des gens qui, voilà, qui peut-être en ont manqué, on ne sait pas, et ils le dépensent beaucoup. Il y a l'argent puissance, hein, qui est synonyme de pouvoir. L'argent réussite, l'argent épargne, investissement et l'argent aussi en tant que manque. Donc c'est vrai que par rapport en fait à cette psychologie sociale, on va aller en fait, enfin en tout cas moi j'aime bien travailler comme ça. Je vais aller regarder en fait qui sont les personnes, qui sont-ils vraiment en fait avant de partir sur les parties techniques. Donc, il y a les recueils d'informations obligatoires, bien sûr, hein, et réglementaires, mais qui ils sont, en fait,
mais vous
s'intéresser aux gens.
Vous constatez vraiment quand même que, d'une manière générale, le rapport à l'argent est genré. Enfin, il y a vraiment des différences, quoi.
Exactement. Donc, moi, je vais aller faire des observations dans le sens des paroles de Catherine. Hein. Quelques exemples. Le rapport à l'argent, en fait, ça démarre à l'argent de poche, hein, déjà. On en parlera, hein, mais les filles, elles en reçoivent moins que les garçons.
Ouais,
les études sont là. Hein. Il y a quand même jusqu'à 10 euros d'écart pour les 16-18 ans. Donc, c'est beaucoup 10 euros
oui,
à cet âge-là. On les a eus, donc on sait. Et il y a des grosses différences entre régions en France.
Ah bon, tiens, par exemple.
Ouais. Ça va jusqu'à moins... On n'est pas loin de moins 17% dans le centre-Val-de-Loire.
Bon.
Donc, c'est énorme, en fait, cette différence.
C'est peut-être parce que c'est des régions plus pauvres, entre guillemets, aussi, en moyenne. Hein,
peut-être
sans doute,
aussi. Hein. Après qu'aussi, le rapport argent et coût des choses est moindre. Hein, peut-être plus accessible, mais quand même. Et c'est vrai que ce phénomène, il va s'amplifier lorsqu'on aborde le revenu professionnel. Hein, dès qu'on arrive dans la vie active, Catherine le disait, hein, moins 20%, c'est quand même la différence de salaire entre un homme et une femme. Alors, c'est vrai qu'il faut le ramener quand même à temps plein. À temps plein, il est quand même encore de moins 15%, donc c'est énorme. Et ça perdure par cette sous-estimation de la valeur à compétence égale qu'on a, hein, nous les femmes. Hein. On disait qu'on n'arrivait pas à se vendre, déjà à l'embauche, mais pas que. Hein.
Oui, elle réclame moins, en fait.
C'est-à-dire qu'en réévaluation de salaire annuel, on ne va pas y aller non plus. Hein.
C'est
enfin,
ça.
On va être content, en fait, de ce qu'on nous propose. Voilà, qu'on soit cadre ou pas. Hein, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Hein. Et c'est vrai que y a aussi cette vie professionnelle qu'on a en dents de scie. On a des temps partiels qui sont beaucoup plus importants en nombre. 80% quand même des temps partiels sont occupés aujourd'hui par des femmes. Et en général, sur des postes peu qualifiés et faiblement rémunérés. Donc vous voyez que là, on baisse en salaire. Et puis il y a plus de contrats durée déterminée. Hein, vous savez quand même que près de 2/3 des contrats durée déterminée sont signés par des femmes.
Donc, ah oui,
allez, on en remet une
net,
couche. Hein.
C'est net.
Et on a des temps de pause. Bon, Catherine en parlait, hein, les congés parentaux. Aujourd'hui, il y a quand même eu des lois qui sont passées en essayant d'ouvrir, en disant allez-y les hommes, faites comme en Suède, etc. Voilà. Bah, non, en fait.
Ils ont du mal à prendre leurs congés parentaux en entier, c'est ça.
La loi, ouais. Elle a fait augmenter de 0,3% le nombre de pères qui prennent des congés parentaux à temps plein.
C'est encore faible.
D'accord,
on va dire.
C'est faible. Ils sont moins de 1%. Alors qu'une femme va être, ça va être à 14%, donc c'est quand même énorme. Donc c'est vrai que du coup, ce qu'on observe, alors là on va rentrer peut-être dans des parties plus techniques, mais les congés en fait, ces congés parentaux, dans la réalité, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la retraite éligible à la carrière longue pour les femmes.
Oui.
Ce qui veut dire en fait que la femme, très clairement, elle va travailler plus qu'un homme.
Et toucher moins à la retraite.
Parce que elle, la carrière longue, elle n'y intégrera pas le congé parental. Sauf si elle a cotisé pour une assurance vieillesse des femmes au foyer. Vous voyez l'information quelque part ? Non.
J'ignorais que ça existait, j'avoue.
Exactement. Ouais. Donc, en fait, il y a beaucoup de connaissances qui manquent. D'où, effectivement, cette nécessité d'aller la chercher, cette connaissance. Et puis moi, par exemple, dans mon travail, d'aller l'offrir, cette connaissance. Puisque cette connaissance, je l'ai. Et encore, je n'ai pas toutes les connaissances, loin de là.
Mais vous avez affaire à des femmes, en gestion de patrimoine, j'imagine que vous avez affaire à des personnes qui ont quand même suffisamment d'argent, enfin pas mal d'argent même.
Oui et non, moi je m'adresse à tout le monde, puisque je ne prends pas de donneur de conseils, donc j'ai décidé vraiment, on va dire, d'offrir mes conseils à tout le monde. Mais c'est important de signaler quand même que même quand les femmes vont gagner autant, alors je ne vais pas rentrer non plus encore dans une partie technique, mais les régimes matrimoniaux, on va dire, peuvent avoir une influence sur un éventuel partage lié à une rupture. Je prends un exemple, parce que c'est vrai que ce sera plus clair. Aujourd'hui, c'est vrai que le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, c'est-à-dire sans contrat, est quand même encore majoritaire en
France.
Quand
on se marie, il n'y a pas de contrat.
On ne veut pas de contrat, on est sur le régime légal. Tout ce qui arrive après le mariage est mis dans les biens communs, qu'on gagne beaucoup, qu'on ne gagne pas beaucoup. Si on se sépare, c'est divisé par deux. Donc déjà ça, les gens ne le savent pas forcément. Il y a une augmentation, on va dire, régulière du régime avec contrat, mais sous le régime de la séparation de biens. Et là, monsieur gagne 5 000, madame par exemple gagne 2 500. Le prélèvement à la source sur vos espaces personnels, en fait, dans le service des impôts, va faire cocher en fait par défaut le taux individualisé, c'est-à-dire qu'il va mettre un taux commun d'imposition aux deux personnes, alors qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. On est bien d'accord que votre espace personnel, il ne le sait pas. Donc, c'est à vous de décocher. Donc, aujourd'hui, il y avait un projet de loi, en fait, qui devait apparaître et être amendé dans la loi des finances 2024, qui a été reporté à 1 an, voire 2 ans, alors que, effectivement, cette coche par défaut, elle devrait être dans l'autre sens. Voilà. C'est des petits détails, mais on voit qu'effectivement, même si on dit on avance, on n'avance pas si facilement et si clairement que ça. Donc, ça demande effectivement une connaissance et un apport professionnel extérieur.
Et quand elles sont informées, les femmes que vous rencontrez, elles arrivent à prendre en main leur patrimoine ou
pas toujours facile.
Ouais, c'est ça. C'est quoi les freins que vous sentez
Elles ne s'autorisent pas. Elles sont dans l'autocensure. J'ai encore un exemple d'une personne que j'ai sollicitée dans le cadre du suivi patrimonial et qui, peut aller chercher parce qu'elle est paxée et donc le régime par défaut du pax, c'est la séparation de biens. Et donc, il faut qu'elle s'autorise à aller préparer son avenir et sa retraite. Je lui fournis en fait des préconisations. Aujourd'hui, elle ne s'autorise pas. Elle ne se sent pas légitime. Il faut peut-être qu'elle ait l'accord induit de son conjoint. Mais bon, voilà. Et en fait, je voulais continuer aussi par la retraite, parce qu'en fait, tout ça, c'est une vie professionnelle, et une vie familiale, et une vie personnelle qui s'écoule. C'est un tsunami à la retraite.
Oui.
C'est le tsunami, c'est-à-dire qu'on a une pension de retraite directe qui est quand même 40% inférieure à celle d'un homme.
Oui, on perd du niveau de vie, clairement. Oui.
On n'en a plus, en fait. Hein. On va dire à 40%. Alors, c'est une moyenne, hein, bien évidemment. Hein. Mais c'est une conséquence, en fait, hyper lourde quand on sait qu'on va vivre en moyenne 22 ans à la retraite. 22 ans, c'est plus la retraite, en fait, de nos grands-parents, où ils vivaient quelques années, compte tenu de l'espérance de vie. Aujourd'hui, enfin, pour moi, ça ne s'appelle pas la retraite. Hein. C'est un passage, c'est une période, en fait, de sa vie.
Une deuxième vie.
Donc, c'est vrai que, du coup, quel constat on peut faire ? Ben, la femme, elle gagne moins, elle épargne moins, elle s'intéresse moins à son patrimoine qu'un homme. Et puis, c'est vrai qu'elle a confiance, en fait, par nature, et elle s'intéresse que peu également à sa propre fiscalité. J'en parlais tout de suite. Qu'elle pourrait davantage maîtriser, et par équité, tout simplement. C'est pas forcément, on va dire, d'avoir plus ou moins. C'est équitable comme ça. Je paye mes impôts, par exemple, en fonction du salaire que je touche.
Tout simplement. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là parce que l'émission se termine. Donc, on va inviter les gens à venir à cette conférence du 15 novembre. Sabrina, redites-nous les informations pratiques, les horaires et le lieu notamment de cette conférence.
Alors, la conférence démarre à 19h à l'espace associatif de Quimper. Cet événement, il faut s'inscrire. Donc, ça se fait via le site internet Hello Asso ou via les liens d'Hello Asso qui sont publiés sur LinkedIn et Facebook. La participation pour les non-adhérentes est de 10 euros. C'est important de dire que ce n'est pas gratuit. Si jamais on a besoin de nous contacter, on peut le faire via Facebook, via LinkedIn ou par email à contact@elencornouailles.bzh.
Et le service communication d'Elle en Cornouailles est très performant. Je vous remercie toutes les deux et puis on retrouvera l'association prochainement dans l'EM, sans doute dans 3 mois à peu près. Merci.
Merci aussi.
Au revoir. Merci Véronique.